bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Vous animez notamment des ateliers de prévention du burn-out parental. Alors, si on commence par une définition, c'est la même chose qu'un burn-out professionnel, mais qui touche le domaine de la famille ?
Alors exactement, on peut dire que le métier de parent n'est pas à l'abri d'un épuisement. On retrouve les facettes qu'on trouve dans le burn-out professionnel, c'est-à-dire un épuisement physique et psychique, mais ça va au-delà de la simple fatigue parce qu'on a mal dormi quelques nuits. Hein. C'est vraiment un état de surmenage, de se sentir à bout, de ne pas avoir le courage d'affronter la journée avec les enfants. Une autre facette qu'on rencontre aussi, c'est une perte d'accomplissement personnel, c'est-à-dire il y a une satisfaction qui disparaît, une motivation, un plaisir qui disparaît. Et puis, chez les parents aussi, on peut voir une attitude qui devient un petit peu mécanique, une distance émotionnelle avec les enfants, qui est très douloureuse à vivre, mais qui est une façon de se protéger un peu de cette source de stress qui use.
Les parents, surtout les mères autant que les pères ?
Alors, on rencontre plus de mamans en épuisement parental, mais je dirais pas que c'est une question de genre, c'est plutôt une question de situation. De nos jours, un couple qui vit de façon équilibrée, au niveau des partages des tâches et de la vie professionnelle, à l'arrivée d'un enfant, va se retrouver dans un format un petit peu plus classique, c'est-à-dire que c'est plutôt maman qui va diminuer son taux de travail, rester davantage à la maison avec les enfants, et se trouver dans une situation où elle va assumer beaucoup de charges, un peu plus que son papa.
Ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie de parents.
Alors oui, je rencontre des mamans qui sont dans un état d'épuisement dès les premières semaines, les premiers mois de l'arrivée d'un enfant. Mais il y a aussi dans les groupes des mamans qui ont des enfants de 4-5 ans, voire des pré-ados. Les problématiques sont bien évidemment très différentes, mais la surcharge et puis la fatigue, l'absence de ressources est aussi présent.
Est-ce qu'on peut parler de personnes qui seraient plus à risque que d'autres ?
Alors oui, il y a des caractéristiques de personnes à risque. C'est surtout les personnes qui sont plutôt perfectionnistes. Et on parle même de perfectionnisme parental, c'est-à-dire des mamans qui vont mettre la barre très haut pour, par exemple, avoir une alimentation très équilibrée pour leurs enfants tout le temps, sortir même les jours où il pleut, faire des beaux albums photos à chacun de leurs enfants, ne pas aller acheter un gâteau à la boulangerie plutôt que de le faire soi-même pour l'anniversaire. Donc un perfectionnisme qui rend la situation difficile parce que les exigences sont élevées et jamais atteintes.
Ça veut dire quoi ?
Et puis peut-être aussi, je dirais encore, des personnes qui ont du mal aussi à demander de l'aide et qui parlent peu de ce qui leur arrive.
Et puis, est-ce que ça peut être aussi des personnes qui idéalisent, parce qu'on peut idéaliser son bébé pendant la grossesse et puis des fois la rencontre ne se passe pas très bien au moment de la naissance. On idéalise aussi le rôle de mère. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit un nombre incroyable de mamans parfaites, justement, qui se mettent en scène sur Instagram et compagnie, où on a l'impression que si on n'y arrive pas, c'est qu'on est nul.
Alors tout à fait, c'est vrai que les attentes liées à la parentalité, on l'aborde aussi dans l'atelier, jouent un rôle parce qu'on imaginait être une maman qui tiendrait le coup, qui s'organiserait bien, qui serait heureuse tout le temps d'être avec ses enfants. Et puis si le décalage il est trop grand, c'est là qu'il y a une souffrance. Et puis vous parlez des réseaux sociaux, bien sûr que ce qui est affiché est plutôt tout ce qui va bien. Et la notion de comparaison est aussi un peu le fléau de la parentalité, c'est-à-dire qu'on va forcément se comparer à des gens qui font mieux que nous, en se disant qu'on fait pas bien, pas assez, et puis en imaginant surtout que toutes nos copines, nos amis, les mamans qui nous entourent font mieux et qu'on est la seule à pas y arriver.
Ça veut dire
ce qui n'est pas le cas.
Ce qui veut dire aussi que les parents doivent accepter cette réalité qui finalement n'est pas toujours rose, mais il y a des moments extraordinaires, puis il y a des moments de doute, et puis voilà, il faut accepter un petit peu toutes ces vagues.
Tout à fait, c'est vrai qu'on a l'idée qu'un enfant c'est extraordinaire, ça l'est, mais il y a aussi des moments où on n'a juste peut-être pas envie d'être avec, qu'on ne supporte pas ses cris, qu'on est fatigué de répondre à des sollicitations incessantes, et ça on a le droit je crois.
Ça veut dire que c'est normal ?
Oui, c'est normal.
C'est humain.
C'est normal, mais je pense que quand ça devient une souffrance et puis que on se réveille le matin en se demandant comment la journée va se passer, que c'est un tunnel dans lequel on n'arrive pas à sortir, je pense que là, il y a demander de l'aide, en parler en tout cas à l'entourage, peut-être à son médecin ou même à un psychologue.
Est-ce qu'on est encore dans une époque qui définit devenir maman comme quelque chose de normal et d'inné? On n'accepte pas ne pas être épanouie en tant que maman, c'est socialement pas acceptable.
Alors c'est vrai qu'il y a une pression qui repose sur les mères, c'est peut-être pour ça qu'elles sont aussi plus touchées par l'épuisement. C'est parce que être maman et être une bonne maman, c'est normal. Et c'est ça quoi qui est attendu. Ce qui fait aussi qu'une maman ne reçoit pas beaucoup de reconnaissance dans son rôle et dans tout l'investissement qu'elle a. Alors que si un papa s'investit dans son rôle de père, il va être applaudi, peut-être surtout par la génération qui nous précède, en disant « mais quelle chance, ton mari, qu'est-ce qu'il en fait ? Il est vraiment impliqué. » Une maman, elle reçoit un petit peu moins cette reconnaissance-là et on sait que l'absence de reconnaissance est aussi un facteur de stress.
Alors, on a parlé des symptômes, on a parlé de certaines causes également. Sandra Bon, dans les ateliers que vous animez, il y a d'abord une partie de présentation où justement on va expliquer ce qu'est le burn-out parental avant de passer à un bilan plus personnel.
Alors en fait, l'atelier comporte 6 séances de 2 heures où à chaque fois on fonctionne un peu la même chose, c'est qu'il y a une petite partie théorique au départ, effectivement présenter l'épuisement à la première séance, mais après à chaque séance il y a à chaque fois un élément un petit peu théorique, on va dire, mais pour ensuite partir de cette théorie pour aller vers le général, donc vers la situation de chacune, faire un petit peu un bilan, une analyse de ce qui se passe pour chacune, de ces facteurs de stress, mais surtout aussi la mise en évidence de ressources.
Ces ateliers s'adressent à qui ? C'est des patientes, parce que vous utilisez beaucoup le féminin, on l'a dit, les mères sont plus touchées, les mères vont peut-être aussi plus volontiers venir s'inscrire, mais que vous rencontrez dans vos autres consultations, ou des gens qui sentent qu'ils sont à la limite, et puis que là, il faudrait faire quelque chose ?
Alors, c'est vraiment ouvert à toute personne. Alors, maman et papa, hein, j'accueille volontiers les hommes, avec plaisir. C'est parfois des personnes que je connais de ma consultation, ou alors des personnes qui ont eu entendu parler des ateliers ou qui voient sur le site ou qui entendent parler d'épuisement parental et qui s'y intéressent.
Finalement, ça va être perçu différemment d'une personne à l'autre, ça va évoluer différemment d'un parent à l'autre.
Oui, alors les situations sont évidemment individuelles et à la fois des choses se ressemblent, bien sûr, mais ça dépend vraiment aussi, peut-être quel est l'entourage de la personne, comment fonctionne le couple aussi dans l'éducation des enfants, est-ce qu'il y a des grands-parents, des amis autour, puis peut-être ça dépend aussi de la personne elle-même, est-ce qu'elle peut faire le pas de demander de l'aide, est-ce qu'elle a le courage de raconter ce qui la préoccupe, c'est peut-être ça qui rend les choses un peu différentes selon les parcours.
Est-ce que le premier élément à faire au tout début, c'est de reconnaître son épuisement, de l'accepter, de l'admettre et puis de comprendre que c'est normal ?
Alors c'est effectivement le premier pas. Des mamans me disent parfois qu'elles se sont rendues compte d'être à bout parce qu'il y a eu un déclic. Hein. Tout à coup, on a oublié un rendez-vous chez le pédiatre ou on a une crise de larmes un peu inattendue. C'est un déclic qui va lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Et puis, aller rechercher de l'aide, évidemment que c'est un immense premier pas, je dirais, parce que chez les mamans en épuisement, il y a un sentiment de honte, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, d'être la seule qui n'y arrive pas. Et cette difficulté-là, une fois qu'elle est franchie, en parlant peut-être à une amie ou à son médecin ou en s'adressant directement à un psychologue, une fois cette difficulté franchie, c'est déjà un immense pas de fait. Et on peut ensuite commencer à voir comment modifier la situation.
Et pour la modifier, commencer par identifier les ressources qu'on peut mobiliser.
Alors je dirais qu'on le fait de manière assez concrète dans les ateliers, donc vraiment de regarder d'abord peut-être quels sont les stress en fait, dans le cadre familial, avec le conjoint, avec les enfants, en lien avec le milieu professionnel, on regarde qu'est-ce qui stresse pour essayer de voir est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait diminuer. Et puis alors on essaye aussi de mettre en évidence les ressources, parce que j'entends souvent des mamans qui ne savent plus se ressourcer. Surtout que quand on parle de ressources, on pense souvent à aller boire un café avec une copine ou faire un jogging, mais on n'a pas toujours le temps parce qu'il y a les enfants. Donc il faut aussi apprendre à se ressourcer avec les enfants. Et puis pas faire que ce qui leur plaît à eux, mais aussi ce qui nous ressource en tant que parents.
L'importance de ces ateliers qui se déroulent en groupe, le fait qu'il y ait un groupe, c'est quelque chose qui amène justement une discussion, un échange, et puis le fait de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans cette situation ou toute seule.
Alors tout à fait, moi j'aime beaucoup travailler en groupe, je trouve qu'il y a une richesse dans ce setting-là. C'est vrai que c'est de reconnaître sa souffrance, mais aussi celle des autres, de pouvoir la partager tout ensemble, et puis de construire aussi des pistes ensemble. Ça va même parfois jusqu'à créer certaines amitiés de ces mamans qui se retrouvent dans la même situation. Mais c'est vraiment s'accorder du temps pour aller mieux et le faire tout ensemble. Et puis là, il y a du temps qui a été dégagé, 2 heures tous les 15 jours au moins, pour venir poser sa souffrance, la partager et puis sortir aussi de cette culpabilité dans laquelle beaucoup de mamans sont empêtrées.
Venir à ces ateliers, c'est mieux, par exemple, pour la première fois, de venir seule ou de venir avec son mari ou voire même avec ses enfants ?
Alors, c'est des ateliers qui sont plutôt destinés aux mamans seules, mais il y a une séance qui est consacrée au papa. Alors, il n'est pas invité à la séance, mais on parle beaucoup de coparentalité, parce que c'est aussi un élément à la fois stresseur, mais qui peut être aussi très protecteur quand il fonctionne bien. Donc, on a toute une séance où on va aborder la question de la relation avec le papa, enfin, de comment l'éducation peut se faire ensemble, quelles ressources ils peuvent se donner l'un l'autre, etc.
Le papa, il peut avoir le burn-out parental de la même manière que la maman. Ça peut se traduire de la même manière, ou est-ce que c'est différent? Et est-ce qu'il a plus de peine à l'admettre?
Alors, dans ma pratique, j'ai peu d'expérience en fait, hein, avec des papas, vu que voilà, peut-être qu'ils ont d'autres ressources que de consulter ou de venir parler avec des professionnels. Ce qu'il faut dire, c'est que le papa, qui garde souvent un emploi soit à 100% ou peut-être à 80%, peut continuer d'avoir une identité professionnelle bien établie et peut peut-être là maintenir un certain bien-être, même si à la maison ça peut être difficile. Mais bien sûr, il peut aussi être touché par l'épuisement parental.
Sandra, bon, les prochains ateliers vont démarrer au mois de mai. On va mettre tout à l'heure les détails sur la page de Format 3. On vous remercie beaucoup d'être venu passer ces quelques instants avec nous ce matin.
Merci à vous.